VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech avec vous, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, au Togo, nouvelle manifestation aujourd'hui dans les rues de Lomé. En République démocratique du Congo, le doyen des prêtres de Kinshasa, convoqué par la justice. Une nouvelle frappe américaine en Somalie tue 13 Chebab. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais d'abord le journal. Au Togo, des milliers de personnes sont encore une fois descendues dans les rues de Lomé, la capitale, aujourd'hui, à l'appel de l'opposition pour demander une limitation du nombre de mandats présidentiels et la démission du président Faure Gnassingbé. Une coalition de 14 partis d'opposition se mobilise depuis septembre, organisant des manifestations populaires quasi hebdomadaires et leurs supporters continuent à protester contre le président, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans. Au Cameroun, l'écrivain camerounais de nationalité américaine Patrice Nganang a été expulsé vers les États-Unis aujourd'hui. Quelques heures plus tôt, la justice avait ordonné l'arrêt des poursuites pénales contre lui. Notre correspondant à Yaoundé, Jules-Emmanuel Tap, a suivi les derniers instants de Patrice Nganang au Cameroun et fait le point pour nous.
C'est sous la contrainte policière que Patrice Nganang est sorti de la prison centrale de Yaoundé. L'écrivain exigeait, avant sa mise en liberté, une copie de son ordre d'expulsion du Cameroun et un document appartenant à un membre de sa famille confisqué par la police. Peine perdue, deux éléments d'une unité d'élite de la police camerounaise ont coincé Patrice Nganang dans leur voiture. Direction, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où l'attendait un avion pour être expulsé. Le matin, à la suite d'une brève audience, Christian Danga Floris, avocat général de l'État, avait formulé l'arrêt des poursuites pénales contre Patrice Nganang. Sur ces entrefaits, le juge a acquitté le prévenu. C'est une décision politique pour un procès politique, a commenté Emmanuel Sim, l'avocat de l'écrivain, qui a par ailleurs critiqué les méthodes utilisées pour expulser son client et la rétention de son passeport camerounais. Patrice Nganang a passé 21 jours d'arrestation au Cameroun pour notamment outrage à corps constitué. Yaoundé, Emmanuel Jolentap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le doyen des prêtres de Kinshasa a été convoqué aujourd'hui par la justice. Il est reproché à l'abbé Vincent Tshomba d'avoir signé un communiqué appelant ses collègues curés des paroisses de Kinshasa à sonner les cloches de leurs églises tous les jeudis à 21h pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Cela lui vaut une plainte d'un parti proche de Joseph Kabila. Les détails tout de suite avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'abbé Vincent Tshomba a été longuement entendu et démontré le contraire de cette accusation que nous qualifions de fantaisiste et d'inspiration politique, a déclaré son avocat, maître Georges Kapiamba, au sortir de l'audience de ce jour. Le curé de la paroisse Saint-Joseph de la commune de Kalamu a signé, début décembre 2017, un communiqué appelant les prêtres de Kinshasa à sonner les cloches de leurs églises chaque jeudi pendant 15 minutes à partir de 20h temps universel, 21h heure de Kinshasa, pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016, accord conclu par la majorité présidentielle et l'opposition sous la médiation des évêques catholiques. Les bruits provoqués par ces cloches auraient provoqué, selon l'accusation, la crise cardiaque dont a été victime Pambiyoka, un cadre du parti de l'ancien vice-ministre Willy Mishiki, proche du pouvoir de Joseph Kabila. Le prêtre accusé a été entendu par un magistrat du parquet de grande instance de Kalamu. Une confrontation entre le plaignant et l'accusé est prévue ce 29 décembre 2017. Maître Franck Kalalo, avocat de la partie accusatrice, souligne que cette plainte n'est pas teintée de politique. Il espère l'inculpation du prêtre catholique à qui il impute le dommage subi par son client. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Libéria, au lendemain du second tour de la présidentielle, les Libériens patientent dans l'attente de leur nouveau président. La commission électorale devrait annoncer les premières tendances entre l'ancienne star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, Eric Maniarakiza.
D'après les médias locaux, les premiers résultats issus des bureaux de vote donnaient en tête George Weah, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain du Milan AC, vainqueur du premier tour du 10 octobre avec 38% des voix exprimées. Le président de la Commission électorale nationale, Jérôme Corcoya, a appelé les deux camps à ne pas crier victoire trop tôt, soulignant que seule son institution est habilitée à annoncer les résultats. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé hier soir et devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Les observateurs ont salué le bon déroulement général du vote. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, NDI, a déclaré que si le Libéria réussit cette présidentielle, ce sera une victoire pour les Libériens, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la tenue pacifique de ce second tour et a félicité le gouvernement, les partis politiques et le peuple libérien. Près de trois décennies après le début d'une guerre civile en 14 ans, le Libéria s'apprête à vivre sa première alternance démocratique entre un président élu, Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique.
Et toujours sur à propos du Libéria et des élections, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la tenue pacifique du second tour et la Commission électorale nationale a indiqué aujourd'hui qu'elle commencerait jeudi, c'est-à-dire demain, à publier les résultats provisoires sans publier d'horaire. Au Sénégal, le procès d'une trentaine de djihadistes présumés poursuivis pour actes de terrorisme et financement du terrorisme s'est ouvert ce mercredi dans un tribunal de Dakar et a aussitôt été renvoyé au 14 février. La Russie a perdu aujourd'hui le contact avec le premier satellite angolais de télécom, Angosat 1, d'un coût estimé à 280 millions de dollars. D'après les experts russes, la situation n'est pas exceptionnelle, le contact peut encore être rétabli et il est encore trop tôt pour parler de perte. Lancé et mis en orbite avec succès hier mardi, Angosat 1 est le fruit d'un accord entre l'Angola et la Russie. Sa mission, améliorer les communications par satellite, ainsi que l'accès à Internet et aux services de radio-télévision sur le continent. Crise de l'or noir au Nigeria où les automobilistes attendent parfois plus de 24 heures en espérant remplir leurs réservoirs, le tout dans le premier pays producteur de pétrole du continent africain. Les distributeurs affirment que la NNPC, la Nigerian National Petroleum Company, responsable de la distribution de pétrole, n'a pas assez de ressources pour faire face à la demande des 190 millions d'habitants. Mais pour les consommateurs, ce chaos serait orchestré pour justifier une augmentation du prix de l'essence et du diesel à la pompe l'année prochaine. Les présidents turcs et tunisiens ont affirmé aujourd'hui à Tunis leur détermination à renforcer la coopération, notamment économique, à l'occasion d'une visite officielle de Recep Tayyip Erdogan, qui a signé des accords en matière de défense et d'investissement. La question palestinienne et la crise en Libye voisine étaient également au menu. Après une visite au Soudan et au Tchad, M. Erdogan a atterri hier soir en Tunisie, dernière étape de sa tournée africaine. Au Kenya, l'un des fermiers les plus connus du pays, Guilford Powers, est mort sur ses terres, piétiné par un éléphant. Héritier d'une famille arrivée du pays de Galles au Kenya au début du XXe siècle, M. Powers était à la tête d'une ferme de près de 20 000 hectares au centre du Kenya, dans la région de Laikipia.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir tué 13 militants islamistes Shebab lors d'une nouvelle frappe menée dimanche dans le sud de la Somalie. Une opération réalisée en coordination avec le gouvernement fédéral somalien. Salwa Jafari.
Des frappes aériennes menées au matin du 24 décembre, la veille de Noël, dans le sud de la Somalie, indique le communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique. Les États-Unis ont multiplié leurs opérations en Somalie ces dernières semaines, accélérant notamment le rythme de leurs attaques de drones contre les Shabab et les djihadistes du groupe État islamique. Les Shabab affiliés à Al-Qaïda tentent depuis 2007 de renverser le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale et contre des bases militaires somaliennes ou étrangères.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde aujourd'hui le mouvement islamiste palestinien Hamas contre toute escalade. Nous utiliserons tous les moyens pour défendre notre souveraineté et la sécurité des citoyens israéliens, a averti Benjamin Netanyahou, qui a par ailleurs réaffirmé qu'Israël ne permettra pas à des forces militaires iraniennes d'établir des bases en Syrie. L'Iran, allié du régime de Bachar el-Assad, envoie en Syrie des conseillers militaires et des volontaires pour combattre les groupes rebelles ou djihadistes. En Russie, au moins 10 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. Voilà pour l'actualité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Actualité économique à présent en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le FMI a approuvé un décaissement de plus de 101 millions de dollars pour le Gabon. C'est dans le cadre d'un accord triennal conclu au titre du mécanisme élargi de crédit. Malgré de bons résultats obtenus par Libreville dans l'exécution de ce programme, le FMI estime que la situation économique demeure délicate. Le Gabon est donc prié de réduire davantage le déficit pour commencer à épargner une partie des recettes, mobiliser les recettes non pétrolières, renforcer la gestion des finances publiques et réduire le recours excessif aux exonérations fiscales, renforcer la confiance du secteur privé et la résilience face au choc. Le président sénégalais Macky Sall a annulé la concession de 10 000 hectares de terres rizicoles dans la région du Fouta accordée au groupe marocain Afri Partners. C'est à la suite de fortes oppositions de la population locale qui avait notamment saisi récemment la Cour suprême du pays. Enfin, le Soudan dévalue sa monnaie, la livre soudanaise, dans la première semaine de janvier 2018. C'est sur une recommandation du FMI visant à libéraliser cette monnaie qui s'est fortement affaiblie en octobre lorsque Washington a levé son embargo économique. Les commerçants avaient aussitôt augmenté leurs importations et cette situation a provoqué une pénurie de devises fortes. La Banque centrale a pris des mesures pour diriger des liquidités restantes vers des secteurs qui stimulent la croissance. D'après la loi de finances 2018, la croissance du produit intérieur brut devrait franchir la barre des 4%. Le Soudan est la cinquième économie africaine.
Place au sport à présent avec vous. Je vais vous appeler Bagassi, décidément. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir, Anne, bonsoir à tous.
Alors, Yacouba, on commence avec Sébastien Abreu qui inscrit son nom dans le livre des records.
Et oui, Anna, certains footballeurs sont célèbres pour avoir passé plusieurs décennies dans le même club. L'international uruguayen de 41 ans a fait tout le contraire en s'engageant aujourd'hui pour la formation chilienne de l'Audax Italiano. L'attaquant surnommé El Loco a signé un contrat avec la 26e équipe de sa carrière. Un nouveau record. Et pour ceux qui ne se rappellent plus de lui, Anna, Sébastien Abreu, c'est le joueur qui a marqué d'une paneca le tir au but victorieux lors du quart de finale contre le Ghana, qualifiant l'Uruguay pour les demi-finales de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010.
Panenka, c'est noté. Dani Carvajal croit toujours au titre en Liga espagnole.
Nous n'avons pas encore perdu. Le Barcelone n'a pas encore gagné, a déclaré le défenseur du Real Madrid. Dani Carvajal veut encore croire à la possibilité de remporter le championnat d'Espagne malgré la lourde défaite concédée à domicile 3-0 face à Barcelone qui compte désormais 14 points d'avance dans la course au titre.
Alors justement, Yacouba, le Classico que Tebas considère comme un succès pour s'être adapté au calendrier asiatique.
Tout à fait, Anna. Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est dit satisfait après la programmation du Classico Real Madrid-FC Barcelone samedi dernier à 13h en Espagne, 12h en temps universel. Cet horaire est inhabituel, mais mieux adapté pour le public asiatique. Ces dernières années, la Ligue a choisi de programmer les matchs du championnat à des moments différents, y compris le matin ou tôt dans l'après-midi, dans le cadre d'une stratégie d'expansion internationale.
Yacouba, parlons transfert possible. À présent, Mapu Yangamwiba pourrait, Mbiwa pourrait quitter Lyon cet hiver.
Vous faites bien de rectifier Mbiwa. C'est le quotidien sportif L'Équipe qui évoque le sujet. barré par Marcelo, Jérémy Morel et Mukhtar Diakabi. Depuis le début de la saison, seulement 128 minutes de jeu en Ligue 1. Mapu Nyangan Biwa pourrait faire ses valises lors du mercato d'hiver. Le défenseur central d'origine centrafricaine, sous contrat avec l'OL jusqu'en 2020, intéresserait notamment l'Inter de Milan, selon l'équipe.
Merci Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, place au dossier du jour. Le Rassemblement, la principale plateforme d'opposition en République démocratique du Congo, a réuni des signatures d'élus en vue d'attaquer pour inconstitutionnalité la nouvelle loi électorale promulguée hier par le président Joseph Kabila. Selon cette loi, seuls les élus ayant totalisé 1% des voix exprimées sur l'ensemble du pays se verront attribuer des sièges dans les assemblées. Solange Nyamulisa a joint Christophe Lutundula Apala, député national et vice-président du Rassemblement du G7.
Nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la loi électorale qui institue le seuil de représentativité nationale pour être retenu à l'attribution des sièges. Ce seuil est une condition d'éligibilité qui exclut des candidats indépendants qui sont pourtant reconnus par la Constitution en son article 101. Un indépendant, c'est un candidat. Pour une circonscription, à l'absolu, il ne peut pas avoir des voix dans d'autres circonscriptions à travers la République pour que ces voix soient additionnées et totaliser le seuil. Donc, le seuil est contraire à la Constitution.
Plus de 50 signatures réunies parmi lesquelles les députés de la majorité. Comment expliquez-vous que les députés de la majorité se joignent à vous?
La loi concerne tout le Congolais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Et nous qui avons initié, nous restons ouverts à tous ceux qui veulent s'associer à nous au lieu qu'on introduise plusieurs recours. Et à partir de ce moment-là, sachant bien que les députés de la majorité n'étaient pas tous d'accord pour soutenir le seuil, il est clair à partir de ce moment-là qu'ils saisissent cette opportunité pour exprimer leur voix en dehors de l'hémicycle où ils ont été pratiquement caporalisés et forcés à voter une loi qui viole la Constitution et qui ne permet pas d'instaurer la décrypation politique sans rechercher par les Congolais avec l'appui des partenaires extérieurs.
On vous accuse de retarder la tenue des élections par vos manœuvres dilatoires. Qu'en dites-vous?
Il n'y a aucune manœuvre dilatoire, madame. Ce sont ceux qui ont bloqué les élections par toutes sortes d'artifices depuis bientôt 2 ans qui bloquent. J'entends dire que le fait d'introduire une requête pour inconstitutionnalité va retarder les élections ou ne nous permet pas de nous préparer. C'est faux et archi-faux. Le seuil ne sera d'application qu'au mois de décembre de l'année prochaine. Donc, on ne voit pas trop comment un recours introduit aujourd'hui va-t-il retarder les élections dans ce cadre-là. C'est quand même étonnant que devant une inconstitutionnalité flagrante comme celle-là, devant une loi imposée et qui porte le germe de la violence, de frustration de la conflictualité, on estime que saisir la Cour constitutionnelle pour extirper de la loi tout ce vecteur de déstabilisation et de violence, on estime que c'est retarder les élections. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Élection ne signifie pas se comporter de n'importe quelle manière. Nous avons besoin d'un état de droit, d'un état stable. Et pour ça, il faut que tout le monde respecte la Constitution de la République.
Christophe Lutundula Apala, député national et vice-président du Rassemblement du G7, principale coalition d'opposition en République démocratique du Congo.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur les faits marquants de l'actualité africaine de ces 12 derniers mois. Comment la République démocratique du Congo est entrée dans une nouvelle période d'incertitude politique et climat d'insécurité? Cette année a marqué également la fin du règne sans partage de certains présidents. Le continent se libère-t-il de ses vieux dirigeants? Le Sahel est-il devenu une cible de choix pour les terroristes? À qui la responsabilité dans le drame des migrants africains? Et le sport africain en 2017, quel bilan? Quels ont été selon vous les principaux événements de 2017 en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Raissa Girondin.
En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Hubert Houlaye a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan. Il est accusé de complicité d'assassinat de 18 personnes, dont 7 soldats de l'ONU. Pour une réaction, Blanche Sanou, adjoint à Abidjan, Seri Gouagnon, vice-président du Fonds populaire ivoirien, le FPI. Il est chargé de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Écoutons-le.
Nous pensons fondamentalement que Hubert Houlaye, qui d'abord était en exil, lorsque les faits auxquels on fait référence se sont produits en Côte d'Ivoire, n'est coupable de rien. À la lecture, nous nous apercevons qu'il s'agit de museler les hommes politiques les plus influents de l'opposition. Et naturellement, Hubert Houlaye est victime de cela. Quand vous regardez tous les commentaires qui sont faits à la fois par l'opposition et même les partisans du régime, tout le monde est un peu ébahi. Parce que l'homme, on le connaît, en Côte d'Ivoire, c'est un monsieur pondéré et qui, même ayant des responsabilités, est resté humble. Et nous ne comprenons pas comment on a pu arriver à une telle machination qui aboutit en fait à une condamnation infamante pour rien.
Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord avec la défense de M. Houlaye qui estime que c'est un procès politique.
J'étais au procès pendant tous les jours, j'ai suivi tous les débats et je suis ahuri et abasourdi. Mais néanmoins, cette décision, puisqu'il était en liberté provisoire, elle est susceptible de recours. Et nous avons 5 jours pour nous pouvoir en cassation. Nous allons le faire tout en n'espérant pas grand-chose de la cassation, mais sait-on jamais.
Et quel impact sur la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire?
Écoutez, pour l'instant, moi, je ne présage de rien, mais en ce qui concerne Hubert Houlaye lui-même, c'est une façon de l'empêcher d'avoir une vie politique normale. Donc, c'est ça qui est d'abord le premier problème. Le second problème, est-ce que nous allons rester là à regarder, condamner, même sans preuve, tous nos responsables politiques? Ça aussi, il y a lieu qu'on revoie un peu notre méthode de fonctionnement.
C'était le vice-président du Front populaire ivoirien, Seri Gouagnon, joint à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À la fin de l'année 2017, des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 pourraient perdre leur statut de réfugiés au Congo-Brazzaville. Leur retour au Rwanda est encouragé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la date butoir du 31 décembre 2017 avance à grands pas. Alors comment la situation est-elle perçue au Congo-Brazzaville? Yacouba Ouédraogo a joint Ferdila Ouattara, la chef du bureau du HCR au Congo.
Actuellement, on a une population d'un peu plus de 9000 réfugiés rwandais et un peu plus de 500 demandeurs d'asile rwandais sur le territoire congolais.
La date butoir, c'est le 31 décembre 2017. Après cette date, ces réfugiés qui ne seront pas en situation de régularité vont se retrouver dans la clandestinité dit Brazzaville. Qu'est-ce qui est fait?
Il y a eu de la sensibilisation, il y a eu des solutions qui ont été offertes aux réfugiés, la possibilité de rentrer au Rwanda avec l'accompagnement du HCR, mais également la possibilité de rester sur le territoire congolais grâce au gouvernement congolais qui a accepté que ceux qui voulaient rester sur le territoire le restent, mais en régularisant leur statut. Il y avait également la possibilité qui était offerte aux réfugiés qui estimaient qu'ils devaient continuer à bénéficier du statut de réfugié, donc de demander à être exemptés de l'application de la cessation. On a eu plus de 3000 demandes justement dans ce sens-là. Pratiquement tous les réfugiés ont demandé à ce que leur situation personnelle soit examinée. Et cet examen a duré de 2016 à 2017. À l'issue de l'examen, il y a eu plus de 800 réfugiés qui ont pu démontrer qu'ils avaient continué à bénéficier du statut de réfugié. Mais les autres n'ont pas pu démontrer, les commissions interministérielles sont statuées sur leur dossier. Mais la possibilité était offerte de régulariser leur séjour au République du Congo. La possibilité est toujours offerte d'ailleurs.
Ceux qui ne veulent pas rentrer au Rwanda, qu'est-ce qu'ils avancent comme raison?
Les raisons pour lesquelles d'abord ils sont devenus réfugiés en République du Congo sont essentiellement liées à la question du génocide. Ce que nous expliquons aux réfugiés, c'est qu'aujourd'hui, il est évident disant qu'il n'y a pas de problème de génocide en République du Rwanda. Maintenant, les craintes qu'ils ont, ils se plaignent de la situation des droits de l'homme au Rwanda, de la situation économique au Rwanda, mais qui ne sont pas en lien avec les raisons pour lesquelles ils étaient initialement venus en République du Congo.
La date butoir, on le disait tantôt, c'est le 31 décembre 2017. Est-ce que vous craignez que beaucoup d'entre ces réfugiés-là tombent dans la clandestinité?
Nous ne voulons pas justement qu'ils tombent dans la clandestinité. La possibilité est encore offerte pour ceux qui veulent se rapatrier, de se rapprocher du HCR, pour ceux qui veulent rester sur le territoire congolais, de se rapprocher du Sénat pour initier justement la demande de permis de séjour sur le territoire congolais.
Le 31-2017, c'est dans 4 jours. S'il y a des demandes qui sont en cours, et donc ce n'est pas évident que toutes ces demandes-là puissent recevoir réponse avant la date butoir.
Nous avons mis en place un guichet unique pour recevoir spécifiquement les demandes de ces personnes qui veulent rester sur le territoire. Une fois que vous avez déposé une demande, que ce soit de rapatriement ou d'intégration locale, tant qu'on n'a pas trouvé la solution que vous avez demandé, vous bénéficiez d'un effet suspensif en fait de l'application de la clause de
séparation. C'était la chef du bureau du HCR au Congo, Ferdila Ouattara.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Joël Morissin à la console, Alfredo Santos. Joselle Morissin à la console, Alfredo Santos. Je suis Anastasie Tudiech. L'information continue sur voafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Pour les milliers de migrants et des réfugiés fuyant la violence et la pauvreté dans plusieurs pays africains vers l'Europe, en quête d'opportunités et d'une vie meilleure, le chemin le plus emprunté passe par la Libye. Ils constituent des cibles pour les individus et les groupes criminels. Leur brutalité ne connaît pas de limites. Exploitation sexuelle, travaux forcés, extraction d'organes et esclavage constituent les outils de leur activité, a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La crise des migrants en Libye a une fois de plus attiré l'attention de la communauté internationale suite au récent reportage de la chaîne CNN sur des migrants africains vendus en esclavage dans ce pays. Les victimes seraient cédées pour des sommes aussi dérisoires que 200 dollars. Les migrants qui recourent aux services de passeurs sont extrêmement vulnérables au trafic d'êtres humains et à d'autres crimes dans la mesure où leur présence dans le pays est illégale et ils doivent souvent des fortes sommes aux passeurs. Certaines de ces personnes peuvent être soumises au trafic sexuel ou au travail forcé en route vers leur destination. Le gouvernement libyen d'entente nationale a lancé une enquête suite aux allégations de trafic d'êtres humains et s'est engagé à traduire les responsables en justice. Les États-Unis appuient fermement ces efforts et le gouvernement d'entente nationale est, pour nous, un partenaire vital dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Les États-Unis continuent de soutenir le programme d'assistance humanitaire aux réfugiés, aux migrants ainsi qu'aux personnes détenues en Libye. Ils concentrent leurs efforts dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, les 3P, poursuite, protection et prévention. Nous finançons la recherche sur les liens entre les conflits et la vulnérabilité au trafic d'êtres humains pour nous aider à comprendre comment mieux prévenir ce crime. Nous espérons protéger les victimes en les identifiant immédiatement dans les situations des conflits et en les assistant. Et nous tenons les passeurs responsables en les jugeant. Nous croyons qu'une approche centrée sur les victimes en matière d'enquête et de poursuites judiciaires est essentiel aux efforts d'application de la loi. Ceci inclut les engagements de ces pays à ne pas traduire en justice les victimes des trafics d'êtres humains pour des actes posés alors qu'elles étaient soumises au trafic, a déclaré la représentatrice permanente des Nations Unies, Nikki Haley. Nous continuerons d'œuvrer avec le Conseil de sécurité de l'ONU et le gouvernement partenaire pour mettre un terme à cet assaut barbare contre la dignité humaine.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.